Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Vedo passare questi mostri, quelli che io considero dei mostri, e mi sento piccola, piccola.
Ce sont des monstres, et face à eux, en tant que vénitienne, je me sens toute petite. Elle est venue avec d'autres manifester, début juin 2021, contre le retour des monstres, ces gigantesques bateaux de croisière qui viennent mouiller dans la lagune de la belle cité italienne. Ils étaient de retour après 17 mois d'absence. Pour les habitants de Venise, le Covid avait parfois du bon. Mais c'est d'une autre façon que la mairie de la cité des Doges entend lutter contre le surtourisme symbolisé par ces géants des mers. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. La Story est en mode été et je vous propose d'écouter le dernier épisode de cette série qui fleure bon les vacances et la lutte contre les effets du tourisme de masse. Aujourd'hui, direction Venise.
Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Voici la numéro 1 actuellement aux États-Unis. En effet, au Sole Mio, après avoir traversé l'Atlantique, est devenu tout simplement « It's now or never », interprété par le fameux Elvis Presley. It's now or never.
Elvis ou Dalida, je ne me prononcerai pas. Et si O Sole Mio est bien une chanson napolitaine, dans l'imaginaire de mon enfance, j'entendais cette chanson dans la voix des pilotes de gondole à Venise, poussant sur leur longue rame de plus de 4 mètres. Venise et ses gondoles, Venise et ses canaux, Venise et ses pigeons de la place Saint-Marc, une invitation au voyage pour les touristes du monde entier, une forme de malédiction pour les habitants du cru.
Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on y sent bien.
Bonjour Pierre de Gasquet.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste aux Échos Week-end. Laisse les gondoles à Venise et laisse un peu moins entrer les touristes. Venise paye le prix de son attractivité touristique.
Eh bien écoutez, là j'en reviens, effectivement, on a un retour en force du tourisme à Venise depuis la fin des confinements, depuis la fin de la pandémie, même s'il y a une queue de pandémie encore aujourd'hui. Et donc la situation est particulièrement intéressante parce que Venise est un peu érigée en laboratoire à la fois de la transition écologique et de la situation du tourisme post-Covid. C'est vrai. C'est vrai que c'est, comme vous le savez, un confetti, le centre historique de Venise, et c'est pas plus de 7,9 km² et 25 millions de touristes environ par an y défilent. Donc on a ce test grandeur nature du retour en force du tourisme à Venise, avec l'idée donc de cette menace de déclassement par l'UNESCO du site, parce que vous savez qu'en juillet 2021, Venise a échappé in extremis à son inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et doit donner des gages en fait à l'UNESCO pour éviter cette situation. Et le comité du patrimoine mondial en péril lui a donné jusqu'au 1er décembre 2022, a donné aux autorités italiennes en réalité cette deadline pour rendre compte des efforts réalisés pour préserver à la fois l'écosystème de la lagune et le patrimoine historique de Venise.
Oui, 25 millions de touristes par an, hein, c'est énorme effectivement pour la ville de Venise qui dans le même temps perd des habitants. Il y a moins de 50 000 résidents permanents, c'est un autre problème là aussi pour la municipalité. Comment est-ce que les habitants de Venise d'ailleurs ont-ils vécu la parenthèse du Covid ?
En fait, ils l'ont vécu avec un immense soulagement parce que la ville redevenait très agréable avec, on a vu des vidéos, vous vous en souvenez, des canaux qui étaient extrêmement propres avec même des images de dauphins dans le Grand Canal. Mais disons que la ville a recommencé à respirer et c'est là que les Vénitiens ont vu en effet la différence avec les années précédentes où le tourisme n'a fait que augmenter pendant une dizaine d'années à un point proche de la saturation. Donc aujourd'hui, effectivement, tout le dilemme des Vénitiens et des autorités locales, c'est de gérer à la fois ce retour en force du tourisme, de l'hypertourisme, et de préserver les acquis, en fait, les expériences positives de cette parenthèse du Covid.
Justement, ce retour des touristes dont vous parlez, que vous avez pu voir, constater aussi lors de votre récent séjour, on peut le mesurer ?
C'est là que le bât blesse en réalité, parce qu'on ne dispose pas de chiffres très fiables sur la fréquentation de Venise. C'est paradoxal parce qu'effectivement, elle est absolument palpable quand vous allez dans certains quartiers de Venise, et aujourd'hui en particulier, donc autour de la place Saint-Marc, on voit le retour en force de ces hordes de touristes. Et aussi, ce qui est spectaculaire récemment, ce sont les magasins de souvenirs, etc., qui avaient été un petit peu diminués et qui reviennent de manière spectaculaire tout autour des points névralgiques, que ce soit le pont du Rialto, la place Saint-Marc ou l'Académia. Donc, on a cette perception aujourd'hui. Les Américains sont revenus, les Japonais sont revenus. Alors le maire de Venise me disait qu'il manque encore à l'appel les Chinois et les Indiens, mais les Européens sont tellement présents que franchement on ne fait pas la différence avec les pics qui avaient précédé la pandémie. Donc tout le problème là aujourd'hui est d'avoir des instruments de mesure des flux, et c'est ce à quoi travaille la municipalité aujourd'hui.
Ouais, Pierre, pour combattre un phénomène, c'est mieux de pouvoir le mesurer, mais la bête noire des habitants, c'est pas le touriste en goguette, mais bien les monstres des mers dont je parlais tout à l'heure, ces bateaux de croisière qui venaient lécher la lagune. Qu'en est-il aujourd'hui ?
C'est la grande nouveauté du Covid, de la pandémie, puisque le gouvernement Draghi a pris la décision en juillet 2021, le décret est entré en vigueur au 1er août 2021, d'interdire les grands navires de croisière, c'est-à-dire ceux de plus de 25 000 tonnes de jauge et d'une longueur de 180 mètres de long, d'emprunter le canal de Saint-Marc et le canal de la Giudecca. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit, ces grands navires de croisière, d'entrer dans le cœur de Venise. Et évidemment, ça a changé la donne pour les croisiéristes, qui ne sont pas évidemment très contents parce que le port de Venise était très important pour certaines compagnies de croisière et qui ont décidé donc aujourd'hui d'aller plutôt vers Trieste. On observe un report de ces croisières vers Trieste, mais c'est une situation relativement temporaire parce que Venise veut aménager à Porto Marghera, qui est le port industriel à proximité, à l'embouchure de la lagune, un port de croisiériste qui sera opérationnel sans doute en 2024 pour récupérer une partie de ce tourisme des croisières. Mais pour le moment, c'est une décision positive, très positive, qui avait été d'ailleurs souhaitée par beaucoup d'associations locales qui militaient ardemment pour l'interdiction des grands navires. Donc on a obtenu une sorte de sursis, même une décision relativement définitive, puisque on pense que puisque ce sera Marghera, la prochaine étape pour ces navires de croisière. Et du coup, il y a moins de touristes, excursionnistes qui sont là pour quelques heures, pour la journée, et qui étaient vraiment le fléau à Venise. Parce que c'est ça, en fait, le problème majeur de Venise, c'est ces touristes qui ne séjournent pas à Venise, qui viennent uniquement pour quelques heures et qui menacent de transformer Venise en parc thématique à la Disney.
Mais certaines critiques se font jour quand même à Venise sur le fait que la municipalité n'a pas saisi l'occasion du Covid pour repenser ce tourisme.
Oui, alors l'actuel maire de Venise, Luigi Brugnaro, est assez contesté. En fait, il faut savoir que c'est un maire qui est plutôt issu de la société civile. Hein. Il a créé une société de travail temporaire qui s'appelle Umana. Donc c'est une success story, c'est une sorte de petit Berlusconi, on dirait, quelquefois dans les milieux de ses opposants. Il le compare volontiers à un Berlusconi au petit pied. C'est un homme très pragmatique, plutôt positionné à droite quand même. Il a été soutenu par la Ligue, à l'époque la Ligue du Nord, et par les partis Fratelli d'Italia, qui sont plutôt d'extrême droite. Mais il a un peu pris ses distances et il se présente plutôt comme un membre de la société civile. Le fait est qu'il est surtout perçu comme un représentant de la terre ferme, parce que c'est un maire qui vient de Mestre. Donc vous savez que l'agglomération de Venise englobe à la fois le centre historique, et c'est là toute l'ambiguïté, et la ville de Mestre, qui est située sur la terre ferme, et qui a des intérêts très différents, notamment par rapport au phénomène Airbnb, qui a été très important à Venise, puisque beaucoup de propriétaires d'appartements ont mis leurs appartements en location sur Airbnb et habitent à Mestre, donc sur la terre ferme, et peuvent avoir plusieurs appartements, certains disent même des centaines d'appartements, dans quelques cas particuliers, et qui sont loués aux touristes, évidemment. Donc ça explique quand même la différence de perception du maire dans le centre historique, puisque lui représente surtout les intérêts, des commerçants et des hôteliers qui sont situés sur la terre ferme.
Ouais, c'est un personnage haut en couleur, hein, avec un physique de déménageur. Il a 60 ans. Quelle est sa stratégie? Quel visage touristique il veut donner à Venise?
Eh bien, c'est un peu tout le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il il gère Venise comme une entreprise. Il n'a pas vraiment de vision pour le futur de la ville et sa transformation, notamment en laboratoire de la transition. Alors là, il a un peu rectifié le tir, puisque c'est son deuxième mandat. Il sait qu'il ne pourra pas en faire un troisième, notamment sous la pression du gouvernement central, du gouvernement de Rome, qui a son propre projet un peu pour Venise, qui a créé une fondation qui s'appelle la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, c'est-à-dire Venise, capitale mondiale de la durabilité. C'est une fondation qui a été créée avec des groupes privés, avec notamment l'Enel, l'Eni, donc les grands groupes énergétiques italiens, le SNAM également, et le BCG, le Boston Consulting Group, pour justement travailler à un projet stratégique pour Venise et toute l'agglomération de Venise, c'est-à-dire la transformation de Porto Marghera, qui est ce complexe pétrochimique, et il est en pleine reconversion.
Alors, ça concerne la terre ferme, ça ne répond pas forcément aux interrogations qu'il y a autour du tourisme à Venise. Le maire, lui, il a un projet de péage urbain, qu'en est-il ?
Oui, alors ça, c'est un peu un serpent de mer, parce que en fait, déjà en 2019 et en 2020, on avait parlé de ce projet de péage urbain qui devait entrer en vigueur juste avant la pandémie. Alors, aujourd'hui, le maire dit on ne pouvait pas le mettre en œuvre pendant la Covid, ça aurait été vraiment inutile. Et il était prévu pour juillet 2022. Il a été à nouveau repoussé au 16 janvier 2023. C'est effectivement un projet du maire, mais qui est un petit peu ambigu dans la mesure où il est surtout présenté comme un système de réservation obligatoire. C'est-à-dire que c'est un projet assez complexe où, grâce à une appli, les touristes devront, en période de haute saison, réserver leur séjour à Venise et payer pour ceux qui n'y séjournent pas. Parce que c'est toujours ça l'objectif, c'est réduire ce qu'on appelle le tourisme mordi et fugi, c'est-à-dire le tourisme des excursionnistes qui passent quelques heures à Venise mais qui ne séjournent pas. Et ce sont eux qui se verront imposer une taxe de 3 à 10 euros selon la période, c'est-à-dire haute saison ou saison creuse. C'est un système intéressant. Beaucoup de spécialistes du tourisme sont sceptiques quand même sur sa mise en œuvre. Alors au départ, on avait parlé, vous savez, de portiques d'accès qui seraient placés tout de suite après la gare. Finalement, il semble que la mairie y ait renoncé. C'est plus un système avec une appli sur son téléphone portable, un peu comparable à celui qui a été mis en place dans les Calanques de Marseille où on réserve aujourd'hui. Sauf que la différence, c'est que dans les Calanques, c'est un système de réservation gratuit. Là, il y aura une taxe. Il faut savoir qu'il y a déjà une taxe de séjour qui est payée par les touristes quand ils résident dans une auberge, dans un hôtel. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas en attendre non plus un bouleversement.
Hop là, est-ce que vous avez déjà vu la place Saint-Marc totalement vide? Eh bien maintenant oui, pourquoi? Parce que je me suis levé tôt encore une fois. Bref, vous l'avez compris, levez-vous tôt à Venise, ça pique toujours de se lever à 6h30 du mat, mais ça vaut le coup, je vous promets.
Pour réguler le tourisme de masse, la mairie compte aussi s'appuyer sur les technologies et sur l'intelligence artificielle. Ça fonctionne comment, Pierre?
Oui, alors ça, c'est la grande fierté du maire actuel, Luigi Brugnaro, qui a ouvert en 2020 ce qu'il appelle une Smart Control Room, c'est-à-dire un poste d'observation. Alors, je l'ai visité, c'est à côté de la gare, c'est un site qui est géré par la police locale, la police municipale, qui est ultra moderne. En effet, on rentre dans un bâtiment qui est donc aux portes de Venise, et il y a là une équipe d'une dizaine de personnes qui contrôlent des écrans toute la journée. Il y a un mur d'écran parce que donc ont été installés dans le centre de Venise environ 600 caméras, 350 dans le centre historique. On ne les voit pas toujours, mais en fait elles sont là. On peut en voir sur le pont de l'Académie par exemple, et tout autour de Saint-Marc. Et ce qui fait aujourd'hui que Venise, centre historique, est une des villes les plus contrôlées en Italie en termes de caméras. On m'a fait voir ce système, donc on peut zoomer par exemple très précisément sur la place Saint-Marc, pratiquement voir le visage des touristes en temps réel, évidemment. Il y a un système aussi de lecture des puces des téléphones portables qui permet aujourd'hui donc à la mairie, grâce à ce système, d'identifier les nationalités, notamment les flux de touristes très précisément, jour par jour, qui entrent et qui sortent du centre historique. Donc pour eux, c'est un instrument de mesure du tourisme qui va être extrêmement précieux, et notamment ça devrait justement lever un petit peu cette hypothèque de l'absence de chiffres fiables, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de 25 millions de touristes par an, ce sont des chiffres qui sont donnés par les universités de Venise par exemple, mais ces chiffres sont relativement peu sourcés, ça va de 25 à 32 millions de touristes par an, donc vous voyez un peu la marge d'erreur.
Le péage urbain avec le système de réservation, on a compris, ça ne fait pas que des heureux, il y a pas mal de doutes autour de ça. Certains disent que ça va transformer le centre de Venise en parc thématique. Que répond le maire quand on évoque justement ce risque d'une privatisation de la ville?
Alors ça, c'est l'autre critique qui est adressée à la mairie actuelle, c'est que si vous voulez, il y a une forme de schizophrénie, de modèle schizophrénique à Venise. Il y a d'une part le tourisme de masse, et puis certains lieux ont été vendus à des milliardaires. Alors par exemple, évidemment, il y a le Palazzo Grassi, alors qui n'a pas été vendu puisque c'est un bail emphytéotique, mais le Palazzo Grassi de François Pinault qui a un peu ouvert la voie des grandes fondations, mais il y a aussi la fondation Prada. Disons que les Vénitiens de souche sont un peu inquiets de voir ce tourisme de luxe aussi, parce qu'il y a pas mal aussi d'hôtels de luxe qui se sont installés sur le Grand Canal. Cette transformation ne fait pas non plus toujours l'unanimité au sein des Vénitiens. Notamment, il y a des projets sur le Lido, qui sont relativement controversés. Alors, il y a un projet d'installation du Club Med sur le Lido qui semble un petit peu enlisé au profit d'un autre projet mené par un laboratoire pharmaceutique allemand qui voudrait créer un centre de recherche sur le Lido. Ça, ce seront de grandes options vitales pour l'avenir de Venise, parce que soit on opte pour le tout-tourisme, soit on essaie de favoriser une activité de recherche, une activité d'incubateur. Il y a un incubateur aujourd'hui sur la Giudecca qui marche de manière un petit peu limitée, mais qui pourrait se développer. Et l'idée serait donc de créer de nouvelles activités à Venise.
Ouais, c'est le sens aussi du projet porté par l'État italien autour du complexe pétrochimique dont vous parliez tout à l'heure. Le maire aimerait en faire un pôle autour de l'hydrogène et la production de biocarburants. Mais Pierre, ça ne règle pas non plus le problème du vieillissement de la population du centre de Venise et sa désertification.
Absolument, ça c'est une opportunité majeure pour Venise, parce qu'il y a deux universités à Venise, la Ca' Foscari et l'université d'architecture, qui est une des plus réputées d'Europe et d'Italie. Donc il y a deux campus assez importants, mais l'objectif de la ville serait de doubler le nombre des étudiants à Venise, de créer une nouvelle université privée. Alors là, il y a encore évidemment des discussions là-dessus, sur le fait de faire venir des étudiants étrangers, etc., et de créer vraiment un campus international à Venise qui manque encore un petit peu aujourd'hui.
Merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux Échos Week-end, intarissable quand il s'agit de Venise. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Ainsi se termine cette série d'été sur le tourisme, à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. La story prend une petite pause d'une semaine, on revient après le 15 août. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.